votre compagnie avec Benoît à la réalisation. J'ai le plaisir par téléphone d'être en compagnie de Didier Ezac pour J'ai arrêté Otto Abetz, co-édité par les Presses de la Cité et le ministère des Armées. Didier Ezac, bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Dourges.
Bien, ben, je suis très heureux de vous avoir au téléphone pour cet ouvrage. Ben, vous êtes passé d'ailleurs dans certaines émissions nationales pour ce livre qui est très important.
Oui, tout à fait.
J'ai arrêté Otto Abetz, celui qui l'a arrêté, eh bien, c'était votre grand-père, tout simplement. Mais je pense que vous ne l'avez pas connu. Vous avez découvert son histoire par votre famille, probablement.
Alors, je dirais malheureusement non. J'ai coutume de dire que j'avais un puzzle de 10 000 pièces. Et j'avais que 20 petites pièces en main, même si papa m'avait dit que Joachim, mon grand-père, avait arrêté à Betz, mais quand j'étais jeune et avec tout un ensemble de choses qui fait que je savais ou je ressentais que je ne pouvais pas poser de questions, et papa, jusqu'à la fin, n'a jamais parlé et n'a jamais voulu parler.
Rappelons qui était Otto Abetz, c'était l'ex-ambassadeur du Reich en France, et on parle beaucoup de lui ces temps-ci en raison du film consacré à Lucher.
Oui, tout à fait. Alors, il était ambassadeur, mais ce qui ne se dit pas, que ce soit par les historiens, et ni d'ailleurs dans le film de Xavier Giannalli, c'est qu'il était aussi dans la SS depuis 1935, et qu'il est quand même devenu général dans la SS, en janvier 1942. Et dans le film de Xavier Giannalli, Les rayons et les ombres, effectivement, il y a l'histoire de Jean et de Corinne Lucher, mais on voit l'amitié entre Jean Lucher et Otto Abetz.
Qui, avant le nazisme, était pacifiste.
Alors, dans les années 20, pacifiste, avec la création d'associations, notamment qu'ils appellent le Solbergkreis ou le cercle de Solberg, qui était chargé de réunir les jeunesses des deux pays dans un élan pacifiste pour la fin de la guerre. Et c'est au travers de ces associations qu'il a pénétré le milieu culturel, le milieu littéraire, le milieu du cinéma et le milieu politique. Mais malheureusement arrivent les années 30, la montée du nazisme et l'avènement d'Hitler en janvier, et il va basculer à la fois dans le nazisme et dans un antisémitisme qui est
militant, forcené même.
Oui, tout à fait. Hein, puisque en plus, arrivé le 14 juin 1940 à Paris, et à la rue de Lille, l'ambassade, il va dès le début spolier les biens juifs. Et il va contribuer aussi sur un plan politique à l'aspect déportation et solution finale avec son numéro 2, Arenberg, qu'il va charger de suivre directement la solution finale après la conférence de Wannsee et la venue de Heydrich en mai 1942 à l'ambassade et en France pour justement mettre en place cet aspect-là sur notre pays, sur la France.
Parlons maintenant de votre grand-père, si vous le voulez bien. Ce qui est très important, c'est qu'il a fait la Première Guerre mondiale, mais du côté allemand. Et chose très importante, parce que ça va expliquer beaucoup de choses également, il est juif.
Oui, tout à fait. Donc il est né en 1899. En 1917, à 17 ans, il finit certainement un peu obligé puisque l'armée prussienne et l'armée allemande avaient besoin de jeunes soldats. Donc il finit son lycée, le gymnasium, et il va être incorporé dans un régiment d'artillerie. Il va être le 8 août 1918 devant Amiens, qui va être la grosse catastrophe de l'armée allemande. Et là, il va être fait prisonnier par des Canadiens. Puisqu'il y a la 4e armée britannique qui est devant avec un corps canadien, il va être fait prisonnier et envoyé jusqu'à la fin du traité de Versailles dans des camps d'internement en Angleterre.
Et après sa libération, il va être expulsé de sa ville.
Exactement. Il revient à Nackel, qui était prusse, mais qui est redevenue polonaise, et il va être expulsé avec ses parents de cette région-là. Et lui va décider d'aller vivre à Munich, qui est quand même la deuxième métropole ou ville avec une grosse communauté juive. Et c'est là qu'il va rencontrer ma grand-mère Anita, qui, elle, est arrivée avec sa famille d'Ukraine, des bords du Dniepr, dans l'Empire russe à l'époque, en 1910, et où ils étaient fourreurs. Voilà.
Il va y avoir donc la montée du nazisme, et comme ceux
Oui.
qui ont pu le faire à l'époque avant d'être heureusement internés et exterminés, il va pouvoir quitter l'Allemagne, il va arriver en France.
Oui, ils arrivent le 30 mai 1933 à Lyon, après avoir subi les autodafés très violents à Munich, puisque Munich, c'est quand même la ville emblématique du nazisme et où a résidé Hitler. Hein. Et donc, ils vont décider de venir et ils vont arriver à Lyon et plus précisément à Villeurbanne, dans ce qui s'appelle le quartier des gratte-ciel, où ils vont vivre jusqu'au début de la Première Guerre mondiale, avec pas mal d'aléas aussi qui sont liés, il faut le dire, au rejet des étrangers venus d'Allemagne et d'Europe de l'Est, qu'on appelait les indésirables, et avec des effets de l'antisémitisme déjà à ce moment-là.
Bah, en 1939, d'ailleurs, il va se trouver interné du fait de son origine allemande. Et il va s'engager dans
Exactement.
la Légion.
Oui, tout à fait. Donc, interné comme allemand, et l'aspect réfugié juif est complètement gommé. Il est un Allemand, et comme tous les Allemands, peut être un élément de la cinquième colonne. Et c'est là, comme beaucoup, comme des milliers de juifs réfugiés, il va s'engager dans la Légion étrangère et il va être affecté en Afrique du Nord.
À un certain moment, il va changer de prénom.
Oui, alors il va changer la fois son prénom et son nom à la fin 42 ou début 43, parce qu'il est revenu après, entre guillemets, la fin de la guerre, en septembre 40. Il va être dans un réseau israélite au niveau de la région lyonnaise et arrivent les rafles de l'été 42, et notamment celle du 26 août 42 qui est organisée par la police française et Serge Bousquet. Et il va apprendre qu'il est, lui et sa famille, sur les listes pour être raflé et déporté. Et donc, grâce a priori au réseau d'amitié chrétienne, ils vont pouvoir être exfiltrés et se réfugier à Belmont-de-la-Loire, dans un petit hameau franchement perdu au milieu de tout, puisque j'y suis allé, et où ils vont vivre l'autre partie. Et c'est là qu'il va changer son nom en Richard. Isaac, mais EZAC.
On ne va pas parler trop de toute son activité dans la résistance parce que je voudrais que nous arrivions justement au sujet de ce livre, cette arrestation d'Otto Abetz, comment cela s'est passé. Il va être rattaché à la prévôté militaire de Lyon, puis il va être muté comme interprète au camp de prisonniers de guerre, mais tout simplement parce que, dans deux camps de suite d'ailleurs, mais déjà parce qu'il parle parfaitement l'allemand.
Oui, tout à fait. Il, bien sûr, puisqu'il est allemand, mais dans sa fausse identité de français, il est dit qu'il a fait son service militaire en occupant la Ruhr en 1919 et qu'après, il a travaillé comme commerçant à Munich ou dans cette région, et donc ce qui lui a permis d'apprendre parfaitement l'allemand. Et donc, enfin, on utilise son service du fait qu'il parle cette langue. Et le fait qu'il parle l'allemand va être aussi un des points forts qui vont faire qu'en mai 1945, tout de suite après la capitulation de l'Allemagne, il va arriver à Seckingen avec malgré tout un lien avec la résistance, mais c'est un peu peut-être trop long pour l'expliquer à la radio.
Et puis il faut découvrir cet album, puisque j'ai oublié de préciser que c'était d'après un ouvrage historique que vous aviez écrit, c'est un album de bande dessinée, cet ouvrage J'ai arrêté Otto Abetz. Ça, nous ne l'avons pas, je ne l'ai pas
Oui, tout
encore
à fait.
précisé, il faut que je le fasse, bien évidemment.
D'accord. Et donc, il arrive en mai 45 comme inspecteur de la sûreté dans un petit service où il est le seul inspecteur de la sûreté pour cette circonscription qui représente 52 communes
Pendant ce temps-là, bah, Otto
au
Abetz, qui
sud
était
de la Floride.
retourné en Allemagne, bien évidemment, lorsque les Allemands ont quitté la France, lui, il va avoir pas mal de complicité pour se cacher, il va multiplier les pseudonymes.
Oui, alors il est, c'est une région, je pense qu'il connaît. Son frère a un rôle important dans les eaux et forêts, donc il va être caché aussi par un réseau de forestiers dans cette forêt noire. Et il va utiliser le nom de jeune fille de sa maman, tout simplement, Laoman. Et c'est comme ça que Joachim va tomber sur la piste d'un dénommé Laumann à partir de septembre 1945, donc quelques mois simplement après son arrivée, et après qu'il ait déjà arrêté pas mal d'anciens nazis, gestapistes, SS, etc.
L'enquête va-t-elle être longue?
Alors l'enquête pour l'arrestation en elle-même, elle va durer 2 mois, donc septembre à jusqu'au 25 octobre, qui va être la journée et la soirée de dénouement et où il va confondre Abetz, parce qu'il sait que c'est Abetz, mais il faut le confondre, et il va continuer son enquête, je dirais, contre vents et marées, et donc contre l'administration de la zone française d'occupation et sa hiérarchie.
Alors vous parlez d'un général, le général Schwartz, justement.
Oui, alors ça c'est à la fin de l'enquête. La deuxième partie, pour retrouver le trésor du Werwolf, donc qui
Mais
était
c'est
tout
pour expliquer
l'argent
qu'il n'a pas
financier.
toujours eu, dirons-nous, toute l'aide qu'il aurait pu obtenir
Voilà,
dans son
exactement. Et
travail.
donc c'est à la fin, quand il fait son compte rendu au général Schwartz, à la hiérarchie qui arrive au général Schwartz, puisqu'il est venu en Allemagne avec un juge d'instruction sous le plus grand secret et avec Abetz, et que le général Schwartz rentre dans la colère, puisque lui n'était pas mis au courant par la direction de la justice de cette arrivée secrète pour trouver les derniers éléments que je laisserai bien sûr aux lecteurs éventuels de
Bien
votre
sûr.
radio découvrir dans la BD.
Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que Abetz, par deux fois, a été remis en liberté.
Exactement. C'est la chose incroyable. C'est que finalement, sans la ténacité de Joachim ou de Richard, donc sans la ténacité d'un juif allemand, d'un chassé qui est devenu chasseur, eh bien, Abetz aurait pu passer au travers de ça. Et notamment, son chef direct l'avait arrêté pour la deuxième fois et relâché. Il avait déjà été arrêté et relâché une première fois. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable, franchement, parce qu'il a. Il n'a jamais rien lâché du tout.
Alors nous n'allons pas relater les conditions de l'arrestation car faut lire cet ouvrage, bien évidemment. C'est le but de cette émission, c'est que les auditeurs deviennent des lecteurs. Mais
Oui.
je voudrais que nous parlions quand même de ce fameux trésor, car ce trésor, c'était pas uniquement de l'argent, il y avait d'autres choses très importantes également.
Alors, il y avait beaucoup d'argent. Alors, il faut quand même dire qu'il y avait beaucoup d'argent parce que c'est. Ça a été évalué à 66 millions de francs de l'époque. J'ai trouvé ça dans des archives, dans les documents du délibéré de l'avocat qui a soutenu Joachim auprès du Conseil d'État. 66 millions de francs, c'est quand même, j'ai fait les calculs, l'équivalent de 400 années de salaire de l'époque moyen d'un ouvrier professionnel. C'est une somme considérable. Et
Oui.
puis des tableaux, des gravures et une caisse de documents dans laquelle il y a une certaine serviette. Et dedans, il y a la lettre originale de Hitler à Daladier. Il y a des documents concernant l'amiral Darlan. Et puis une lettre d'un général allemand. C'est Kettel, voilà, j'essaie de me rappeler son nom, qui donne l'ordre de fusiller des officiers, des otages français. Pour ne parler que de ces documents.
Bien sûr, votre grand-père va donc arrêter Otto Abetz. Il a dû être plutôt déconfié, Otto Abetz, de savoir que celui qui l'avait arrêté était non seulement juif, mais également allemand.
Oui, alors je ne sais pas quand est-ce qu'il l'a appris, mais n'empêche qu'il l'a appris. Peut-être qu'il l'a appris autour du procès qui a eu lieu en 49 et où Joachim y a assisté,
Oui,
puisque
tout à
j'ai
fait, il était témoin au vaste
trouvé,
procès.
voilà, tout à fait, puisque j'ai trouvé la preuve par Le Figaro du 16 et 17 juillet 1949, et avec deux caricatures en plus qui sont l'une en face de l'autre. Il y a à droite Abetz qui en berlificote avec ses mains un peu dans tous les sens, et de l'autre côté, il y a la caricature de Joachim où c'est marqué Richard Ezac qui a arrêté Otto Abetz. Donc
Alors,
je
j'ai
sais
oublié de
qu'il était au
préciser que
côté.
vous-même êtes un ex-officier d'administration de l'armement et vous avez également été cadre dans le domaine de la défense.
Oui, j'étais cadre de direction au niveau d'une entreprise de défense terrestre qui est un grand groupe maintenant franco-allemand d'ailleurs.
Ah, bien, et oui, le
Oui.
hasard, les destinées, effectivement.
Et voilà, et je suis allé à Munich, j'ai voilà, Rouen, c'est assez et en tant que soldat et sous-officier, j'étais dans la région de Seckingen, pas loin, au bord du lac de Constance. C'est assez marrant, un peu comme s'il y avait une transmission transgénérationnelle inconsciente.
Nous allons laisser passer un communiqué si vous le permettez.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Je rappelle que je suis en compagnie de Didier Ezac pour J'ai arrêté Otto Abetz, coédité par le ministère des Armées et les Presses de la Cité. Et il convient de citer justement, c'est le dessinateur de cet album, c'est Maxime Germain.
Oui, tout à fait. C'est un jeune dessinateur, enfin jeune, 33 ans, et c'est son premier album complet.
Oui, il a enseigné l'art
Et il
graphique, entre autres,
Oui, exactement. Et il donne
spécialisé dans
toujours
les
des
arts numériques et
cours.
l'animation.
Voilà, exactement.
Il a semblé naturel, tout à fait naturel à votre grand-père, c'est de demander la naturalisation française, vu ses états de service.
Oui, il les a demandés tout de suite après la guerre. Et le premier élément du dossier sont partis en 1946 et ça a duré 4 ans et demi de longues procédures d'oubli, de pertes soi-disant par l'administration. Voilà, très
Quand
très long
l'administration
et pas spécifique.
veut égarer un papier, c'est très facile pour elle, généralement.
Oui, mais c'est pas spécifique, bien sûr, à lui.
Non, non, je parle de l'administration en
Beaucoup.
général, justement.
Ah oui, ah oui, ça, tout à
Et
fait.
il va demander ce qui peut paraître naturel, c'est une récompense par rapport à tout ce qu'il a retrouvé, l'argent, les tableaux, les documents, mais ça va pas bien se passer.
Oui,
Il va même être
il s'est
accusé, c'est ça le
beaucoup.
pire.
Oui, il s'est beaucoup investi. Bon, le dernier juge d'instruction va écrire par deux fois. Au ministre de la Défense, enfin, ou des Armées à l'époque, et de la direction de la justice, en disant d'ailleurs que Joachim est l'un des meilleurs inspecteurs de la sûreté qu'ils aient eu dans le pays de Bade. Et de l'autre côté, au niveau de l'administration de la zone française d'occupation, où il faut le dire, il y a quand même eu beaucoup de fonctionnaires ex-vichysois qui ont été recyclés. Eh bien, l'instruction est faite à charge et contre le fait de donner une récompense. Et avec un compte rendu fait par les renseignements généraux de discussion avec l'ex-maîtresse de Abetz pendant la
Qui va
guerre,
prétendre qu'il a
et qui
détourné de
va
l'argent.
prétendre qu'elle a. Voilà, exactement. Que moi je sais, puisque vu tout ce que j'ai fait dans les archives, est totalement fou. N'empêche que ce document va être recyclé, va permettre de refuser, va monter au niveau du Conseil d'État, puisque Joachim va faire voilà, des actions auprès du Conseil d'État. Et en 52, le premier délibéré, qui sont des délibérés publics, bon, donne ces éléments, comment dire, est évoqué le fait qu'il aurait pu prendre, parce que toujours avec du conditionnel
Bien sûr.
infamant, comme dit l'historienne Laurence Pampin, et à partir de mo ce moment-là, ses amis du maquis qui étaient venus l'écouter, voir ça, ben, vont revenir, et devant ça, certains, semble-t-il, c'est ce qu'on m'a rapporté, vont dire: c'est normal, c'est un juif. Et donc, il va complètement, je pense que ça lui a fait un traumatisme et
Il
un
va être
mal
écœuré, il va quitter la
énorme.
France d'ailleurs.
Et il va quitter la France et il va retourner vivre à Munich, où il
Non.
va décéder 2 ans après, l'année de ma naissance.
Ce qui est extraordinaire aussi, enfin c'est lamentable, c'est que Abetz, malgré les crimes de guerre, va être gracié rapidement. Pourquoi?
Oui, il va être gracié parce qu'on retrouve son numéro 2 à Reinbach et son épouse Suzanne Abetz qui vont faire tout un tas d'actions, à la fois en Allemagne et à la fois en France, pour arriver à le faire libérer. Donc en France, en allant voir des
Auriol, le
anciens
président Auriol.
fonctionnaires, et voilà, et puis en allant voir le président Auriol. Voilà, et l'épouse du président Auriol et l'épouse du président Coty, ça c'est le rôle de Suzanne Abetz, et qui vont aboutir au fait que le 16 avril 1954, le président Coty va gracier Abetz. Alors c'est aussi sur un plan géopolitique une période où la guerre froide a commencé lui n'avait pas je vais dire de sang entre guillemets sur les mains, ce qui est faux parce que quand on sait ce qui a été fait au niveau de la déportation et qu'il a largement trompé là-dedans, et donc il va être gracié comme ça après 5 ans de travaux forcés.
Votre grand-père est mort la même année. Moi, en lisant cet album, j'ai tout de suite pensé bon, que sa mort, c'est une crise cardiaque, je crois. C'est
C'est
lié
une crise
peut-être à la
cardiaque.
libération anticipée de Abetz.
Alors, il avait aussi un cancer, a priori, parce que c'est un gros fumeur. Mais c'est vrai que la concomitance, je ne sais pas si ça a donné, enfin, cette conséquence, en tout cas, je pense que il l'a fatalement su et que ça a dû lui faire un coup très fort, qui n'a certainement pas arrangé les choses.
Bien sûr. Et Abetz, lui, est mort simplement quelques années après dans un accident de la circulation.
Voilà, dans un accident ou ou dans un soi-disant accident.
Pourquoi dites-vous soi-disant?
Parce que il se dit, et notamment c'est dans le livre de Barbara Lambauer qui a fait sa thèse sur Otto Abetz, qui a enquêté là-dessus, qu'il se pourrait que l'accident ait été provoqué
Ah, on ne saura pas par
par.
qui.
Et on ne saura pas par qui. Alors, dans le film de Xavier Giannalli, on voit à la fin que ça serait les services secrets français. Ça peut être aussi d'autres organisations.
Ou peut-être, pourquoi pas, même d'anciens nazis avec qui il aurait été en concurrence.
Voilà, ça a été dit, ça, des agents israéliens, pourquoi pas des résistants français.
Le mystère restera probablement entier jusqu'à la nuit des temps. Depuis la
Exactement,
sortie de
puisque
cet
la
ouvrage, là, il nous
voiture
reste
qu'il
un peu plus
avait.
d'une minute. Est-ce
Ouais.
que, avec certains, je pense que vous avez fait des salons, rencontré des lecteurs, est-ce que vous avez eu des réactions de gens qui ont pu connaître cette époque?
Alors, figurez-vous que j'ai eu, lundi, pas celui-là, lundi, il y a 8 jours, une dame qui m'a contacté, une dame de 90 ans, et qui me dit, j'ai connu, mon papa a connu et était ami avec Abetz. Et c'était dans les années 20. Ce monsieur était banquier à Karlsruhe. Il a contribué aussi à fonder les cercles de Solberg. Arrive 1930 et la bascule, comme j'ai dit tout à l'heure, d'Abetz dans le nazisme et dans l'antisémitisme, ce qui va occasionner leur rupture. Ces gens-là vont aller vivre à Paris. Mon banquier, voilà, ils avaient quand même les moyens. Et arrive 1940, la spoliation des biens des Juifs. J'ai oublié de préciser qu'ils étaient juifs allemands. Et donc, ils vont être spoliés comme tous les autres juifs. Ils vont aller dans la zone sud. Lui, il va être aussi interné dans les camps. Il va s'engager dans la Légion. Son épouse va aller voir Abetz qui va refuser de l'aider.
Oui, effectivement, j'avais vu quelque chose à ce sujet. Nous arrivons déjà au terme de cette émission, Didier Ezac. Alors, je voudrais rappeler le titre de cet ouvrage, J'ai arrêté Otto Abetz. Vous l'avez écrit avec des illustrations de Maxime Germain. Je rappelle que c'est paru en coédition par les presses de la Cité et le ministère des Armées. Je conseille vraiment beaucoup la lecture de cet ouvrage. Je vous remercie encore de votre témoignage aujourd'hui. Et peut-être aurons-nous l'occasion de nous retrouver pour un autre ouvrage, qui sait, un jour, ou d'autres archives historiques. Merci encore à vous. Et nous allons terminer en écoutant un extrait de La force du destin. Je crois que c'est un titre symbolique pour votre grand-père.